pour reprendre du dernier à la page Tamerhalès, à la première ligne de cette page.
Admorazaken va venir conclure ce chapitre en précisant qu'il est nécessaire de se souvenir de deux sujets qui vont donc bien sûr concrètement forger la crainte de Dieu, à savoir que, premièrement, de la même façon que la crainte d'un roi est inspirée par sa vitalité profonde, par son aspect profond, parce que, comme nous le verrons, lorsque le roi dort, il n'inspire pas de crainte, alors de la même façon, un juif ne doit pas seulement se limiter à une vision matérielle des mondes, il doit s'habituer tout le temps à percevoir l'aspect profond de ces mondes, la lumière divine profonde qui anime les mondes. Et deuxièmement, l'Admorazaken conclura en rappelant au moins la nécessité de se souvenir tout le temps de la nécessité de l'acceptation sur soi de la Malchut Shamaim, du joug divin. Donc, prenons donc l'étude dans les mots, à la page Tamer Aleph, à la première ligne de cette page. Ve'od zot, iskor, et encore autre chose, l'individu, le juif, doit se souvenir, sous-entendu, pour réveiller la crainte de Dieu, kikmo, shibemeler, bassar, vadam, ikar, aïra, i, ipnimuto, ve'chayuto, ve'lom et gufo. De la même façon que, en ce qui concerne un roi de chair et de sang, la principale crainte sous-entendue que l'on peut ressentir à l'égard de ce roi est bien de sa profondeur, de sa vitalité, et non pas de son corps lui-même, sous-entendu, et cela parce que Shaare Keshiyachen en Shum Iran Emenu, parce que voici que lorsqu'il vient à dormir, alors il n'est source d'aucune crainte, aucune crainte ne va émaner de lui, malgré le fait que, par exemple, c'est le même corps de ce même roi, qui va procurer une crainte lorsqu'il sera en colère. Malgré cela, lorsqu'il dormira, la crainte du roi ne sera pas identique. Parce que, sous-entendu, comme l'explique ici l'Admorazaken, la crainte du roi est bien procurée par sa vitalité, par sa vie, par son aspect profond. Veine, pinuto, verrayuto, en nire, leine, bassar. Et voici l'aspect profond et l'aspect de sa vitalité de ce roi n'est pas visible aux yeux de chair, rak bene aterel, seulement aux yeux de l'intellect. C'est seulement l'intellect qui va comprendre que le corps est bien animé d'une vitalité profonde. Aliédé, Riyat, Ene Bassar, Bekoufo, Ulvushav. Et c'est bien par la vision des yeux de chair du corps du roi et de ses vêtements que chez Yodéa, chez Khalito, Melubash, Betokham, que nous allons savoir que sa vitalité, que la vitalité du roi s'habille au sein même de ses vêtements, au sein même de son corps et de sa chair. Donc la vision du roi et la compréhension qu'il existe bien une vitalité profonde qui sera à l'origine de la vraie crainte du roi. Veinken, et s'il en est ainsi, sous-entendu, en ce qui concerne notre Nimshal, Dieu lui-même, il ne suffira pas de regarder, mais il faudra aussi percevoir la vitalité profonde, et ce sera cette vitalité profonde qui procurera la crainte véritable aux Juifs. Alors, Veinken, et s'il en est ainsi, Tara, Mama, de la même façon, vraiment, si Eshlo, l'Ira est Hachem, il faut craindre Dieu, Adivé, Riyat, Ene, Bassar, Bashamaim, Veharet, Vechol, Zevab. Il y a lieu donc de craindre Dieu par la vision des yeux de chair dans les cieux, dans la terre et dans toutes les armées, Asher, Or, Ensov, Baruchou, Melubash, Bahem, Lahayutam, dont la lumière infinie de Dieu qu'il soit béni vient s'habiller au sein donc des cieux, de la terre et des armées pour leur donner une vitalité, leur vitalité. C'est-à-dire que les yeux de chair verront concrètement la matière et les yeux de l'intellect en quelque sorte percevront la vitalité qui vient animer cette matière. Et ainsi naîtra la crainte du roi, de Dieu. Et au sein de la Haggadah, de la note, l'Admorazaken va plus loin. Il va venir expliquer que non seulement par le fait de voir, d'observer avec des yeux de chair les cieux, la terre et l'ensemble des armées, nous allons de façon secondaire par les yeux de l'intellect réveiller la crainte, mais plus que cela, nous pouvons voir aussi de quelle façon l'ensemble des mondes, l'ensemble des créatures sont totalement annulés dans leur vitalité à la divinité, à Dieu. C'est-à-dire plus particulièrement, nous allons voir comment l'ensemble des étoiles, etc., viennent se prosterner, viennent obéir aux lois de la nature, entre guillemets, c'est-à-dire viennent obéir à la vitalité divine, aux ordres divins. Et donc dans les mots, plus particulièrement, Vegam Nire Beriat Haim, Shem Betelim, les Horoi Barer, et même nous voyons par la vision de l'œil que l'ensemble donc de ces créatures sous-entendues
sont annulés à la lumière de Dieu qu'ils soient bénis. Et cela parce que Beisharavutam, Kol Yom, Klape Maharav ou Bishkiatam, parce que ces créatures viennent se prosterner toute la journée en direction de l'ouest et même au moment de se coucher. C'est-à-dire que nous percevons bien de nos yeux que, par exemple, le soleil, etc., vient depuis le matin jusqu'au soir diriger son mouvement, sa translation, sa rotation en direction de l'ouest. C'est ce que nous percevons de nos yeux. C'est là, comme nous allons le voir, parce que la Shrina se trouve bien à l'ouest. Gmama Rabotinuzal, comme nous enseigne donc nos sages dans la Gmara Bababatra al-Pasuk sur le verset Vetava Shamaim Lecha Mishtaravim, et les armées du ciel, des cieux, vers toi se prosternent. Shashrina Bemaharav, parce que la Shrina se trouve vers l'ouest, à l'ouest, motamo. Zenimsa, il se trouve donc que non seulement, sous-entendu, au moment où elle se couche, ses armées sont donc annulées à Dieu, à l'ouest, au Maharav, à la Shrina, mais plus que cela, toute la journée, ils louham kolayom, klapé Maharav, leur avancement, toute la journée, se fait bien en direction de l'ouest, ou derrière, à Ishtarabua, ou Bitoul. Cela est bien le chemin, mot à mot, de la prosternation et de l'annulation. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, explique l'Admor HaZaken, qu'a priori, il n'y aurait aucune raison pour que l'ensemble des étoiles, pour que l'ensemble des armées célestes, viennent se diriger vers l'ouest, viennent se prosterner, c'est-à-dire se coucher le soir vers l'ouest, à l'ouest, si ce n'est que finalement, elles viennent transformer leur nature, elles viennent se soumettre à la Shrina, à la présence divine. Il faut bien comprendre que dans la Kabbalah, le Maharav, l'ouest, est synonyme et le symbole de la Malchut, c'est-à-dire du dévoilement justement de la Shrina. C'est-à-dire, la Shrina est qui constitue la source de vitalité, de vie pour l'ensemble de ces armées célestes. Et donc nous percevons bien le degré d'annulation de l'ensemble de ces armées célestes à la divinité. Pour bien comprendre donc ces notions, le Tzemar Tzedek nous rappelle que bien sûr nous devrions nous étonner du fait que la présence divine, la Shrina, se dévoile particulièrement au niveau du Maharav. A priori, la lumière divine la plus intense, jusqu'à la lumière située au sein des sphirotes du monde de Hatzilut, cette lumière n'a pas plus de prédisposition à se dévoiler à l'ouest ou à l'est. Et puisque cette lumière, pour venir au sein du monde, est véhiculée par la Malchut, elle, va venir apporter dans un makom, dans un lieu, la présence divine, et ce lieu est, conformément à de nombreuses explications de la Kabbalah, le Maharav. Et d'ailleurs, le mot Maharav, explique nos sages, vient bien transcrire la notion du dévoilement, justement, de la Shrina. Rabbi Moshe Cordovero précise que, d'une façon naturelle, telle que le monde a été par Dieu créé, les étoiles, l'ensemble des armées célestes, auraient dû aller se diriger, auraient dû se prosterner vers l'est. Tel était, entre guillemets, leur chemin naturel, leur voie, entre guillemets encore, naturelle, de par leur création. Telle était donc leur voie d'avancement et donc de prosternation. Mais en fait, ces créatures, ces armées célestes, ont réalisé que le dévoilement donc de la Malchut se situait au Maharav et ont donc transformé, changé, modifier leur avancement, entre guillemets encore une fois, naturel, conformément à leur création, et sont venus se diriger cette fois vers le Maharav et se prosterner, c'est-à-dire se coucher au Maharav, lieu de dévoilement de la Malchut, de la source de vitalité de l'ensemble des mondes. Nous revenons donc dans les mots, Véné, Gam, Michelora et Ameler, Meolam, Véno, Makiroklal. Et voici même celui qui n'a pas vu le roi jamais et qui ne le connaît pas du tout, Avalpiten, malgré cela, Kishenirta, Chechatser, Ameler, lorsqu'il va rentrer dans le Chatser, et dans la cour du roi, Véroé, Sarim, Rabim, Benir, Badim, Mishtachavim, Leish, Echad, et lorsqu'il va voir de nombreux princes honorables se prosterner devant un homme, le Rabbi précise, le Chatser est bien un endroit où, d'une façon habituelle, le roi ne se dévoile pas complètement. Il ne s'agit pas ici de l'intérieur de la demeure du roi, mais seulement le Chatser, parce que le Rabbi explique ici l'intention, la Kavana d'Admor HaZaken, le Chatser vient représenter dans le Nimshal, le monde, le Olam Hazeh, un endroit où le roi n'habite pas, ne demeure pas d'une façon habituelle, ne demeure pas d'une façon dévoilée. Mais malgré cela, lorsque donc la personne va rentrer et va voir que de nombreux princes honorables se prosternent, sous-entendu donc les armées célestes, et même s'il s'agit que d'un aspect superficiel, malgré cela, si Paul alave Emma ou Parad, malgré cela, va tomber sur lui une crainte et une terreur, tant donc intellectuelle que celle des Midot, la Parad. Et encore une fois, s'il s'agit de quelqu'un qui n'a jamais vu le roi, qui ne connaît pas du tout le roi. Il s'agit d'une âme très basse, qui n'a pas de perception naturelle de par sa source du monde de Asiya, des niveaux les plus bas du monde de Asiya, qui n'a donc pas de perception naturelle de la divinité. Malgré cela, par l'observation du monde et de l'annulation de ses créatures à Dieu, alors cette personne sera animée d'une crainte et même d'une terreur ressentie tant au niveau de l'intellect que du cœur. Et la Noirienne va continuer à expliquer que malgré le fait qu'il ne s'agit ici que de l'Evushim, que d'habits qui viennent occulter, masquer la vitalité divine, malgré cela, l'homme a l'obligation de s'habituer à percevoir la vitalité divine qui vient animer ses créatures, et non pas seulement à percevoir l'aspect extérieur. Et donc dans les mots, « Ve'af she'u ayelit la prut be'levushim rabim » et bien qu'il ne s'agisse ici que d'un habillement par de nombreux habits, tout rendu de cette vitalité divine. Et lorsque nous voyons les étoiles ou le soleil, nous ne percevons pas la divinité, mais seulement le levouche gashmi, seulement l'aspect matériel. Alors, are en edel vefreshklal, beriat, meler, bassar, vadam, ben sheou, arum, ou ben sheou, lavouche, levouche echad, ou ben sheou, lavouche, belevouchim rabim. Voici qu'il n'existe pas de différence du tout à la vision d'un roi de chair et de sang, que ce roi soit nu ou encore qu'il soit revêtu d'un ou de plus nombreux habits. Parce que sous-entendu, le principal est bien de ressentir que le roi se trouve là. C'est bien la perception du roi qui va faire naître un sentiment de crainte. Et là, Aïkar ou Aergel, mais le principal est bien l'habitude. C'est-à-dire les Aril, Dato, Marshavato, Tamid, Yot, Kavua, Belibo, Moro, Tamid. C'est-à-dire habituer son da'at, son attachement et sa pensée tout le temps, afin que cela soit fixe dans son cœur et dans son cerveau tout le temps, constamment. Asher, Kolma, Sheroé, Benav, au point que tout ce qu'il va percevoir, tout ce qu'il va voir de ses yeux, Ashamaim, Zaharet, ou Meloa, les cieux, la terre et ce qui l'emplit, Akol, Em, Levushim, Ritsonim, Shalameler, Akadosh Baruch Hu, tout cela ne sont que des habits superficiels du roi, Dieu béni soit-il, va y baiser, et par cela, c'est-à-dire par l'habitude que l'homme s'imposera, alors il score Tamid, Alpimutam, Zechayutam, alors il se souviendra de façon constante, permanente, sur leur profondeur et sur leur vitalité, c'est-à-dire sur l'aspect profond de ces créatures qui constituent la vitalité divine, la lumière divine. Et c'est justement cette habitude d'avoir constamment la vitalité de chaque chose qui va créer chez l'homme une véritable crainte. Et le rabbi vient d'expliquer la question que nous pourrions avoir maintenant et à laquelle la Noazaken va venir répondre. En effet, nous avons expliqué précédemment au cours du chapitre 33 que cette réflexion constituait le sujet de la Emouna, de la foi. Et d'ailleurs, même dans ce chapitre, nous avons expliqué donc à la page Tamer ou Amoud Bet que les Juifs Israël, Maaminim, sont des croyants, ont la foi. Et a priori ici, l'Admor Hazaken souligne qu'il est nécessaire de s'habituer tout le temps, constamment. Il ne s'agit donc pas, à proprement parler, d'après ce que nous ferions comprendre, d'une émouna, mais plutôt d'un fait de forger une compréhension et d'habituer son cerveau, son corps, son cœur à cette havana, à cette compréhension des choses. Et donc, a priori, nous pourrions nous poser une question, s'agit-il d'une émouna, d'une véritable foi, comme l'Admor Hazaken l'a souligné précédemment, ou d'un travail, d'un effort, de s'habituer soi-même à un certain type de compréhension. Alors à cela, l'Admor Hazaken vient d'expliquer, Bézé, Nirlal, Gamken, Belachan, Emouna, et cela est englobé aussi dans le langage de émouna, de foi. Chioulachon, Régilout, parce que le langage de émouna est bien un langage de d'habitude, chez Marie, la Adam et Asmo, l'homme vient s'habituer lui-même, que mot omen, améamen, yada, déroulé, comme un ouvrier, il vient, entre guillemets, habituer ses propres mains au travail. C'est-à-dire, comme explique le rabbi, l'ouvrier a parfois une perception intellectuelle du travail qu'il doit réaliser, cependant, son effort va viser à exercer ses mains, à habituer ses mains à un travail de plus en plus fin. Et donc aussi, en ce qui nous concerne, il y aura ces deux étapes. D'abord, le fait de voir le roi, de voir Dieu au travers de ses armées célestes, puis dans un second temps, par nos propres yeux intellectuels, de percevoir la divinité qui vient habiller ses créatures. Et le rabbi vient d'expliquer que peut-être pas tout un chacun va savoir et va pouvoir à chaque instant réfléchir à de telles notions, va pouvoir visualiser intellectuellement la vitalité de l'ensemble des créatures du monde. C'est pourquoi la Noa Zaken va venir nous donner un autre conseil, à savoir Vegam, Liot, les Icaron, Tamid, et aussi il faudra se souvenir tout le temps. La chose qu'on nous a, le langage de nos sages, que leur souvenir soit une bénédiction pour nous, Kabbalat Ol Malchut Shamaim, l'acceptation sur soi du joug de la royauté divine, chez Ukeinan Sumtasim Alecha Meler, qui est comme le sujet de placer sur soi un roi, ou motamo tu placeras sur toi un roi, c'est-à-dire que chacun du peuple juif a l'obligation de placer Dieu, qu'il soit béni, comme roi, sur lui, comme un joug, que Moshin Baer, comme un rêve s'est roulé, comme cela est expliqué dans un autre endroit, etc. Et cela, si Akadosh Baruch Hu Maniar est à Elionim, Zatartonim, ou Meyahed, Malruto, Aleno. Et cela parce que Dieu, qu'il soit béni, laisse les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, et vient unifier sa royauté à nous. Zanarnu, Mekabelim, déroulé, et nous, nous acceptons, etc., nous avons vu sur nous-mêmes le hol, le joug de cette royauté divine. Et cela constitue le sujet des prosternations du Shmoné Esré, de la Tfila de la Amidah. Et cela vient après l'acceptation du joug de la royauté divine par la parole au moment du Kriyat Shema, lorsque nous disons Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Et cela donc va viser à l'Arzor ou le Kabel à revenir et à accepter sur nous dans un élan de chouve, non pas comme dans un élan seulement de ratsou, mais bien de chouve vraiment, des poel mamash, en pratique vraiment, c'est-à-dire des maasés déroulés par l'action, au sein de l'action, etc. Parce que l'action constitue la finalité de toute expression d'annulation à Dieu, de toute acceptation du joug divin. L'action constitue le tahlit, la finalité, la shlemut, la perfection d'une acceptation du joug divin. Comme cela est expliqué dans un autre endroit, et en particulier le fait donc que l'action sera le témoin réel de l'annulation, et donc de la soumission et de l'acceptation de Dieu comme roi dans le monde. Et donc, en définitive, la Mordecai est venue expliquer que, premièrement, il faut se souvenir que de la même façon que la crainte d'un roi est inspirée par sa vitalité et son aspect profond, parce que lorsqu'il dort, il n'inspire pas de crainte, alors de la même façon, un juif ne doit pas seulement se limiter à une vision matérielle des mondes, il doit s'habituer tout le temps à percevoir la lumière divine profonde qui anime les mondes ou les armées célestes. Et cette démarche qui résulte sous-entendue d'un effort, est bien contenue, est bien inclue dans le terme de Emouna, parce que comme cet ouvrier qui s'habitue à exercer ses mains afin de traduire en pratique finalement le concept intellectuel qu'il perçoit. Et enfin, l'Admoa Zaken a conclu en soulignant que aussi il est nécessaire de se souvenir, et le rabbi avait brisé au moins, d'accepter le joug divin, la Malchut Shamaim, sur soi. Alors pour conclure, rappelons que nos Rebbeim, à commencer par l'Admoa Zaken, nous ont largement expliqué que le début donc de la crainte de Dieu constitue en l'acceptation de la Malchut Shamaim, du joug divin, qui concrètement se traduit par la réalisation de ce qui est contraire à son propre désir, de ce qui est contraire à sa propre volonté, pour le bénéfice de la divinité, pour le bien de Dieu. <t'en>